France Culture.
On est trop contents, ça fait longtemps qu'on a envie de le faire.
C'est vrai?
Ouais.
France Culture.
Donc je me mets là.
Là, c'est pas
là,
mal.
Comme ça, ça va.
Ouais. Moi, ça me va parfaitement.
Le Book Club.
On a suivi un ordre qui était Lévi Aragon, Scénario de Sérail, Amin Malouf et Une nuit, un chat.
Ok.
C'est bien?
Dans la bibliothèque d'Antoine Reinhardt.
Le téléphone est sur avion. Les paquets de gâteaux sont déballés.
Les paquets de gâteaux, on les mangera pas.
D'accord, voilà, comme ça, il n'y a pas de bruit de plastique.
Marie Richeux.
Vous avez été Louis XIII dans la série théâtrale adaptée du livre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Vous avez été un militant de la lutte anti-VIH, président de l'association ACT UP dans le film 120 battements par minute de Robin Campillo. Vous avez été l'avocat général impitoyable dans le film Anatomie d'une chute de Justine Triet et plein d'autres personnages au théâtre et au cinéma. Mais je cite cela parce qu'ils ont le verbe haut, celui du monarque, celui de la militance, celui de la plaidoirie. Et que vous excelliez à les porter tous. Votre jeu pouvait facilement trahir un goût presque physique pour les mots. Et pour cause, peut-être, dans un portrait que vous consacrez le journal Le Monde, on parle d'un budget illimité pour vous et vos frères et sœurs culture bibliophile qui côtoyaient les sorties au cinéma pour apprécier les derniers blockbusters. On retrouve cet éclectisme apparemment dans votre bibliothèque où l'on croise autant Agatha Christie que Julien Gracq, Armistide Maupin, Stendhal, Emmanuel Carrère ou Bruno Latour. Quelques scénarios aussi. On entre dans votre bibliothèque Antoine Reinhardt. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du Book Club de France Culture. Bienvenue chez vous.
Avec plaisir, bienvenue.
Il y a des livres sur la table du studio. Voilà, de temps en temps, on va vraiment chez les gens. De temps en temps, les gens viennent avec un petit peu de leur maison et de leurs livres. C'est une compagnie que vous aimez bien, les livres?
Oui, beaucoup. Alors, je dois pas mentir, la plus grande partie de mes livres sont dans un garde-meuble, parce que c'est Paris. Et que je veux pas pour autant m'en séparer complètement, mais non, j'ai besoin de l'objet, ça me rassure.
Comment vous avez choisi ce qui était dans le garde-meuble et ce qui était dans votre maison du quotidien?
Alors, dans la maison du quotidien, il y a ceux que je pense encore que je vais lire, que j'y crois, et ceux qui sont vraiment essentiels, auxquels je veux pouvoir me rapporter sur une recherche ou sur un book club, ou sur... Et là, d'un coup, je me dis, ok, qu'est-ce que j'aime? J'ai ça, 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 et tous ceux que je passe à mes amis, à mes frangins... ma sœur, enfin...
Et c'est une pratique que vous avez, de vraiment consulter votre bibliothèque, d'avoir une bibliothèque comme ça autour de vous, sans qu'elle fasse quatre murs, parce que Paris, mais à laquelle vous pouvez vous référer comme un outil de pensée?
Oui, j'ai besoin un moment de... ça me rassure, en fait. Je le fais pas au quotidien, mais il y a un moment, j'ai besoin de m'y référer, de me dire, ok, où j'en suis, que tout ne soit pas que virtuel. De le voir, de me dire, ok, j'ai lu ça cette année, ah oui, j'ai lu ça, ça, ça.
Et ça dessine un parcours pour vous, un parcours de lecture et de vie, quand vous regardez cette bibliothèque, par exemple? C'est concret?
J'ai une petite névrose liste, donc j'ai besoin régulièrement de me dire, ok, quels sont tous les films que j'ai vus depuis 8 ans, tous les livres que j'ai lus, et les spectacles de théâtre, globalement, j'ai besoin. Et après, mes musiques, je les ai sur ma playlist Spotify, donc j'ai besoin de savoir, d'avoir ces choses-là sous la main, mais c'est complètement névrotique.
Mais pour rendre tangibles les choses traversées, les choses qu'on peut avoir de son côté...
Sinon, je ne sais pas où j'en suis, sinon je suis perdu. Enfin, donc ça me rassure, et parfois je me dis, ah en fait... J'ai lu quand même des choses que j'adore, ou parfois je me dis, vraiment, en fait, cette année a été vraiment pas très riche, quoi.
Et quand vous voyez, par exemple, cette liste de livres, quelle que soit sa taille, elle vous parle d'un moment de vie, vous y reconnaissez, par exemple, vous pouvez prendre la liste des trois dernières années et vous vous dites, ah oui, ah tiens, ça me parle bien de l'année que je viens de traverser.
Oui, complètement, parce qu'en fait, il y a quand même aussi des choses qui sont liées à des périodes de vie, c'est-à-dire qu'il y a aussi la période conservatoire de théâtre, où du coup, je lis du théâtre à tire-larigot, avec parfois beaucoup de... Enfin, je lis Ruy Blas, j'adore, je pleure, je suis à fond. Je sais pas le jouer, tant pis, mais j'aime ça. Et en même temps, c'était aussi une période de recherche où on devait, pour proposer des scènes, on avait des cadres un peu donnés, mais assez larges. Et en fait, on en a marre quand on demande des Alexandrins de voir du Molière, quand bien même c'est super. Donc on va chercher dans Reignard, dans des trucs plus pointus, et on se rend compte qu'en fait, il y a des histoires un peu moins convenues que celles qu'on voit très très souvent au XVIIe, des histoires de une mère, une grand-mère et une fille qui sont toutes amoureuses du même mec, le légataire universel qui veut récupérer l'argent de la famille, enfin des trucs, le joueur, un mec qui est passionné de jeu et qui détournent l'argent, qui rackettent les gens, en fait. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un peu plus, là, je les ai plus bien en tête, mais en tout cas, on se dit, ah ouais, en fait, le 17e est beaucoup plus riche qu'on ne croit, et bon, après, j'ai des périodes BD, mon enfance, c'est clairement les périodes, Les Six Compagnons, Agatha Christie. Vraiment tous, enfin j'avais une passion Agatha Christie quand j'étais jeune.
Qui venait d'où? Parce qu'il y en avait dans la maison?
Oui, je pense que je l'ai récupéré de ma grand-mère. Et j'avais l'impression, comme j'étais assez, je devais être en, je sais pas, sixième, j'avais l'impression que c'était assez classe, que j'étais un peu en avance de
bien
lire
sûr,
ça,
bah
etc.
Oui, puis c'était couverture noire, masque
ouais,
jaune.
Complètement. Et en même temps, là j'en relis beaucoup, mais parce que ça n'a aucun rapport avec le réel. C'est-à-dire quand même, Agatha Christie, il y a un truc qui est... qui est faux. Et
c'est... Mais faux au sens carton-pâte, quoi. C'est
oui.
Pas de recherche de réalisme.
Non, je veux dire, ça ne raconte rien sur le monde. Enfin, ces espèces de meurtres dans des familles anglaises, nobles, tirées par les cheveux, mais en même temps hyper kiffants, toujours pour des histoires d'héritage. Et on a l'impression que c'est écrit au 19e, mais pas du tout. Il y en a qui sont écrits après-guerre, avec des histoires d'espionnage soviétique et tout. Et on se dit, ah ouais, d'accord. En fait, Agatha Christie, en vrai, c'est aussi les années 50-60.
Et quel est votre goût de relire ça en ce moment, Antoine Reinhardt? Pourquoi vous y allez, par exemple?
Là, en ce moment, c'est ce que j'ai eu un... Bah, je pense comme beaucoup, il y a le téléphone qui a ruiné ma lecture. Donc, je lis beaucoup moins. Et j'ai eu un accident aux oreilles, donc j'ai beaucoup de mal à lire, parce que j'ai un problème auditif qui fait que je me concentre moins bien. Donc, j'ai eu du mal à... J'ai perdu beaucoup de lecture, en fait. Et ça, c'est tellement facile.
Oui, il y a un plaisir immédiat.
Il y a un plaisir
quoi.
Immédiat. Donc, en fait, c'est facile. Et du coup, ça m'a... réconforté, enfin il y a un truc qui est plus sain en plus. Bon non, Agatha Christie, on a une petite tendance à le finir, mais la lecture, il y a aussi quelque chose de plus sain où on arrive à se coucher pas après 2 heures, pas après 2-3 heures.
Après avoir été vraiment jusqu'à l'épisode 8
ouais,
de la
exactement.
Saison 1.
donc là, c'est plus sain, quoi.
Je mentionnais ce budget illimité pour les livres, d'une part, oui. Est-ce que c'est vrai? Et d'autre part, qu'est-ce que ça a créé pour vous et peut-être éventuellement pour une circulation de livres entre les frères et sœurs?
Ben, on en avait beaucoup. Et c'était vrai, oui, c'était vraiment l'idée, c'était de dire, si vous voulez acheter des livres, il n'y aura jamais de limite.
Donc,
c'est trop bien, ouais. J'ai un peu envie de refaire la même. c'est une bonne excuse pour consommer du livre. Et du coup, oui, on achetait plein de livres, énormément de BD. Ma mère nous lisait énormément de livres. Mon père, lui, lisait ses livres.
De
énormément.
Ça, de ambiance.
Voilà.
Mais c'est aussi quelque chose qu'on transmet, d'être en train de lire soi-même. Ça veut dire que vous avez vu l'image
oui.
d'un homme qui lit.
Complètement,
c'est,
oui.
C'est quand même tout bénef pour l'avenir.
Ah ouais, bah avant de se coucher, il lit. Il le fait encore. Ouais, ouais, complètement. Et en fait, on n'avait pas le droit de se coucher tard, mais si on lisait en scred, ça passait, toujours. Et après, on se levait, on n'essayait pas de faire de bruit pour retourner à la salle de bain, mais il était 2h du mat et on allait un peu...
Et votre maman, vous lisez des livres, y compris quand vous saviez lire?
Oui, je me souviens, mais là, c'était plus dans des périodes sur des petites opérations à l'hôpital ou des trucs comme ça, des livres pour rire ou des choses... Enfin, des livres bien, mais comme on était beaucoup d'enfants, en fait, après, elle passait aux autres. Et à un moment, elle pouvait plus... Après, on se débrouillait quand même.
Est-ce que vous avez été un enfant lecteur? Est-ce que ça a fait partie de votre quotidien, de votre formation?
Oui, très, très. Mais d'ailleurs, plus même qu'aujourd'hui, et j'essaye d'y retourner, mais oui, je lisais vraiment énormément tous les soirs... Après, on n'avait pas de téléphone, hein. On n'avait pas non plus mille autres choses, mais je crois que c'était assez sain, oui.
Vous avez parlé de ce passage au Conservatoire National d'Art Dramatique, donc ça a été un moment de fréquentation d'une certaine littérature, à la
ouais.
fois théâtrale, mais aussi de tous les textes qui gravitent autour. Vous
ouais.
disiez, Antoine Reinhardt, allez voir, essayez de dénicher d'autres choses que les canons éventuels des textes qu'on présente. Ça a été un lieu formateur dans votre vie de lecteur. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu des amis, des profs, peut-être des lieux, des bibliothèques en particulier?
Ouais, bah, la bibliothèque. Moi, j'ai une petite passion pour les bibliothèques. C'est un endroit que je valorise à mort, qui me fascine un peu. En plus, c'est aussi en vrai un lieu de drague, l'air de rien, mais du coup, je sais pas, moi, c'est un lieu que j'aime particulièrement et dans lequel je me sens bien.
Ça ajoute au plaisir
éventuellement, ouais. Ça ajoute au plaisir de travailler, etc. Tout le monde travaille, je trouve ça trop beau de se dire, on a créé des lieux où tout le monde va bosser ensemble et s'élever spirituellement, je trouve ça assez très très beau. Il y a eu une période où j'étais à l'avance sur recette au CNC. Donc c'est
une commission de lecture.
Une commission de lecture qui donne les budgets publics pour les films et qui est très très sélectif. Donc on aide très très peu de films. Et moi j'étais au deuxième collège, donc les gens qui avaient déjà fait 2 films ou plus. Donc j'avais tous les scénarios des Pluchin, de Audiard, de tout le monde. Enfin, Et par contre, on avait 20 scénarios par mois. Donc c'était...
Beaucoup de lectures.
Énormément de lectures. Donc je lisais plus que du cinéma, plus que des scénars. Mais par contre, tous les films qui sortaient français d'une période, je les ai tous vus pendant... Enfin, je les avais tous lus pendant deux ans d'animation, documentaire. Et ça, c'était assez passionnant. Donc c'était une période...
Et c'était inédit dans votre vie de lire à ce point-là du scénario comme une,
oui.
lecture, comme une littérature à part entière, je veux
Complètement.
Dire.
Ouais. Et ça
c'est particulier, on y reviendra, parce que dans les choix que vous avez fait pour nous aujourd'hui dans la bibliothèque, vous avez choisi un extrait de scénario, mais en effet, c'est des textes tout singuliers.
Oui, et en même temps, qui ont quelque chose qui peut être très romanesque, on peut se planter, parce que nous, on juge sur le scénario. Très souvent, c'est le cas, mais parfois, par exemple, il y avait le film À plein temps, moi je l'avais lu en scénario, j'avais trouvé ça vraiment nul. Enfin, nul, j'exagère, mais très très programmatique, très très froid. Et en fait, le film est super, et ça, c'est vraiment un gros ratage où après coup, je me suis dit, mais parfois, un scénario n'est pas ce que le film sera. Mmh. Et il y a des contre-exemples aussi.
Le geste de cinéma, tous les gestes de cinéma, c'est-à-dire le jeu d'acteur, la réalisation, le montage. Ouais. Mais à ce propos, d'ailleurs, il y a le scénario d'Anatomie d'une chute de Justine Triet et Arthur Harré qui est paru dans un livre. Est-ce que vous l'avez lu après, autrement, je veux dire, après l'avoir joué?
Non,
vous
je
n'y
l'ai
êtes pas revenu.
Relu.
Ça va quand
relu
même.
Pour... Ouais, je le connaissais quand même pas mal. Je l'ai beaucoup lu avant, je l'ai vu en tournage, je l'ai revu 5-6 fois le film. Donc non, je l'ai pas relu.
Et c'était un texte intéressant.
C'était un texte de fou. Enfin, franchement, c'était incroyable. À la lecture, c'était vertigineux. Il y avait vraiment des moments de vertige où on se dit, mais comment elle va s'en sortir? Où est-ce qu'elle va aller?
L'autrice ou l'actrice?
Ouais, l'autrice.
L'autrice.
Où est-ce qu'ils vont? Parce qu'ils mettent en place quelque chose, on se dit, ok, super, j'adore, mais comment tu t'en sors de ça? Et elle réussit à sortir par le haut, parce que je me dis, il y a deux solutions, soit c'est ça, soit c'est ça, et dans les deux cas, je suis déçu. Et non, elle réussit à prendre le contre-pied et à faire, voilà ma réponse, et en fait, on en sort, grandi un peu.
J'aimerais le lire, moi, je crois que je vais le lire, je ne l'ai pas lu, j'aimerais le lire.
Et Sans abattement, de Romain Campillo, dont vous parliez tout à l'heure, c'est fou parce qu'il y avait toute une partie qui n'était pas dialoguée. Il y avait vraiment toute la troisième partie qui était romanesque, quoi, narrative. Mmh. Et après, du coup, il y avait des dialogues plus ou moins écrits, plus ou moins dits. On improvisait un peu, mais pas beaucoup, parce qu'il n'est pas non plus d'après du discours rapporté, etc. Et ça, c'était assez... Et du coup, à la lecture, c'était assez bluffant, enfin, assez bouleversant.
Donc, ce moment du conservatoire, l'enfance, les BD, les bibliothèques, le moment de la commission de lecture des scénarios, voilà. Donc ça, c'est des moments de lecture importants. Est-ce que vous en voyez d'autres qu'on devrait signaler avant d'aller vraiment visiter votre bibliothèque?
Jeune, on m'a dit de lire, Maupin, Les Chroniques de San Francisco. Donc après, j'ai lu les 9 tomes. Et en fait, je remercie énormément la personne qui m'a dit de dire ça, parce que c'est très libérateur.
Et c'est quoi?
C'est vraiment assez soap. Enfin, c'est pas de la grande écriture du tout. Facile à lire, hyper jouissif. C'est les années 70, San Francisco, la libération sexuelle. Et il y a l'héroïne principale, c'est une jeune femme qui arrive de je sais plus quel état et qui découvre ce San Francisco très très libre. Elle arrive dans une maison, c'est une espèce d'immense colloque où la vieille femme qui tient la colloque, qui est en fait transsexuelle, mais bon, on le découvre plus tard, pose des joints sur la porte de chacun de ses hôtes.
Des joints à fumer, j'imagine.
Joints à fumer, oui, voilà,
pas entre le carrelage.
En mode bienvenue, marijuana, faites maison, etc. Et où on suit les délires de gens de milieux très très différents, mais dans un San Francisco qui est extrêmement libre et extrêmement joyeux. Et du coup, ça casse toutes les portes et toutes les grilles qu'on peut avoir quand on a 20 ans et il y a quelque chose de... Ouais, très libérateur.
Ça donne envie. Ça vous fait encore rire.
Ouais, j'adore.
20 ans après, presque, ouais. C'est ça, à peu près. Est-ce qu'on doit donner une petite image de votre bibliothèque? Donc, il y a une partie qui est dans un garde-meuble, ouais. Antoine Reynard. Et pour ce qui est de chez vous, ça se présente
chez
comment?
Chez moi, il y en a dans mon salon, j'ai un, deux, trois rangées. J'en ai aussi dans ma chambre. C'est un peu partout, j'essaie d'organiser, mais sans...
Quelle organisation?
Organisation par couleur, parfois.
Oui.
Ouais. Non, alors il y a les Agatha Christie dans mes toilettes, hein, je le cache parce que j'en ai 80, je pense, donc ils sont tous. Voilà. Les 6 mois, il y a les romans photos, il y a beaucoup de BD, parce que j'ai toujours eu énormément de bandes dessinées. J'ai pas mal de gens qui me jugent là-dessus, mais moi je suis très très bande dessinée.
Qui vous jugent?
Ouais, qui me jugent.
Jugez-les.
Bah oui, c'est vrai.
Jugez-les en retour.
Qui m'ont dit, moi quand j'arrive et je vois ça, j'ai peur. Je dis, désolé. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel d'arriver chez quelqu'un. Je sais quand je suis allé dans des maisons de vacances de potes et qu'il y a tous les Largo Winch, par exemple. Bah génial.
Voilà.
C'est basique, on en prend un avant de s'endormir, soda, enfin voilà,
plaisir.
C'est vraiment ouais, ça fait complètement plaisir. C'est facile. On est à la maison.
On va entrer dans votre bibliothèque par des choix de textes que vous avez faits. On appelle ces textes des livres étapes, Antoine Reynars, juste après ça.
C'est une vie bizarre qui nous attend. Ça, on le sait depuis longtemps. Depuis que l'on a 17 ans. On marche dans le noir. Au hasard, à travers rue, à travers champ. À chercher quelque chose de grand. Une vie bizarre, une vie que personne ne comprend. Même pas celles qui sont dedans. Une vie passée contre le vent.
France Culture, le Book Club.
On l'a perdu depuis longtemps.
Dans la bibliothèque d'Antoine Reynards.
Depuis que l'on a 17 ans.
Marie Richeux. On entre avec vous dans la bibliothèque, Antoine Reynards. Alors, on demande à nos invités, dans cette émission, de faire le choix de 5 livres étapes. Et j'ai cru comprendre, on m'a dit, au bureau, que le choix n'avait pas été simple. Mais que finalement, vous êtes revenu à votre premier choix.
Oui.
C'est à celui-ci que vous vous êtes fié. Est-ce que vous voulez dire 2-3 mots introductifs sur la sélection de textes? Comment vous avez navigué? Qu'est-ce qui vous a fait vous arrêter sur tel ou tel texte? Vous aviez envie d'une vision d'ensemble?
Oui, bah c'était difficile, c'est parce qu'on se dit... Il y a des choses qui sont... Bah, par exemple, j'ai parlé de Maupin, de Agatha Christie, qui sont très très présentes chez moi, mais en même temps, bon, faut faire des choix, quoi. Et il y a Bruno Latour, qui a été à un moment aussi, moi, qui m'a bouleversé. Mais c'est quand même hyper ardu. Il y a des choses que j'ai lues, par exemple Proust, je l'ai beaucoup lu pour des lectures publiques, et c'est des choses qui me vont très bien quand je les lis, enfin qui me vont très bien moi en tant que lecteur, pour les transmettre, mais en même temps c'est pas...
Enfin, c'est pas
ça
vous,
sublime,
quoi.
Mais oui. C'est moins moi, enfin donc bref, j'étais perdu, enfin faut faire un choix entre 5, voilà.
Bah non, sais. Mais vous n'aviez l'air pas du tout perdu, au contraire, c'est très argumenté. Le premier choix va vers un grand texte de la littérature. Si c'est un homme de Primo Levi, c'est Questo è un uomo 1947, vous allez évidemment lire la traduction en français. Est-ce que vous voulez dire un mot du choix de ce texte, Antoine Reynards, avant de le lire, ou est-ce qu'on l'écoute d'abord dans votre voix?
Bah, écoutons-le et après on en parle.
Ok, alors on vous écoute lire.
C'est dans ce monde chaque jour plus profondément ébranlé par les soubresauts de la fin prochaine que, en proie à de nouvelles terreurs, à de nouveaux espoirs et à des périodes d'esclavage exacerbé, je devais rencontrer Lorenzo. L'histoire de mes rapports avec Lorenzo est à la fois longue et courte, simple et énigmatique. C'est une histoire qui... appartient à un temps et à des circonstances aujourd'hui abolies que rien dans la réalité présente ne saurait restituer et dont je ne crois pas qu'elle puisse être comprise autrement que ne le sont aujourd'hui les faits légendaires ou ceux des temps les plus reculés. En termes concrets, elle se réduit à peu de choses. Tous les jours, pendant 6 mois, un ouvrier civil italien m'apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle de soupe. Il me donna un de ses chandails rapiécés et écrivit pour moi une carte postale qu'il envoya en Italie et dont il me fit parvenir la réponse. Il ne demanda rien et n'accepta rien en échange, parce qu'il était bon et simple et ne pensait pas que faire le bien dût rapporter quelque chose. Tout cela est bien plus important qu'il n'y paraît. Car pour les civils, nous sommes des parias, plus ou moins explicitement, et avec toutes les nuances qui vont du mépris à la commisération. Et bien entendu, cela n'empêche pas que beaucoup d'entre eux nous jettent de temps à autre un morceau de pain ou une pomme de terre, ou qu'ils nous confient leur gamelle raclée et à laver après la distribution de la civile soupe au chantier. Mais s'ils le font, c'est surtout pour se débarrasser d'un regard familique un peu trop insistant, ou dans un accès momentané de pitié, ou tout bonnement pour le plaisir de nous voir accourir de tous côtés et nous disputer férocement le morceau jusqu'à ce que le plus fort l'avale et que tous les autres s'en repartent, dépités et claudiquants. Or, entre Lorenzo et moi, il ne se passe à rien de tout cela. À supposer qu'il y ait un sens, à vouloir expliquer pourquoi ce fut justement moi, parmi des milliers d'autres êtres équivalents, qui put résister à l'épreuve, je crois que c'est justement à Lorenzo que je dois d'être encore vivant, aujourd'hui. Non pas tant pour son aide matérielle, que pour m'avoir constamment rappelé, par sa présence, par sa façon si simple et facile d'être bon, qu'il existait encore, en dehors du nôtre, un monde juste, des choses et des êtres encore purs et intègres, que ni la corruption ni la barbarie n'avaient contaminé, qui était demeuré étranger à la haine et à la peur, quelque chose d'indéfinissable comme une lointaine possibilité de bonté pour laquelle il valait la peine de se conserver vivant. Les personnages de ce récit ne sont pas des hommes, leur humanité est morte, ou eux-mêmes l'ont ensevelie sous l'offense subie ou infligée à autrui. Les SS féroces, stupides, les capots, les politiques, les criminels, les prominentes, grands, petits, et jusqu'aux Häftlinge, masse asservie et indifférenciée, tous les échelons de la hiérarchie dénaturée instaurée par les Allemands sont paradoxalement unis par une même désolation intérieure. Mais Lorenzo était un homme, son humanité était pure et intacte, il n'appartenait pas à ce monde de négation. C'est à Lorenzo que je dois de n'avoir pas oublié que moi aussi, j'étais un homme. Ouais, c'est hyper dur à lire, hein. C'est Primo Levi. En fait, ce qui est dire, c'est de s'approprier le texte de quelqu'un qui était dans les camps, donc, du coup, c'est difficile de se l'approprier parce qu'on est très très loin, effectivement. Il parle de récits légendaires qu'on ne peut pas vraiment se représenter, même si on peut se les représenter en partie. Et c'est vrai que ce morceau de Primo Levi, je trouve ça trop beau. Et c'est, pour moi, c'était souvent un peu un guide. Je me disais, ah, si j'arrive un jour à être ce Lorenzo, enfin, je me disais, je ne le suis pas du tout, mais c'est un peu le guide de ce que peut être.
Un guide vers d'humanisme, vous voulez
ouais,
dire
un guide d'humanisme, ouais. Voilà, un guide moral.
De la dignité, de la moralité.
Ouais, c'est ça. Comment, effectivement, il arrive à sauver l'autre en lui donnant quand même de quoi se nourrir. Mais aussi en lui
rappelant qu'il fait toujours partie de la communauté des humains.
Ouais. Mmh.
Et vous vous rappelez quand est-ce que vous avez découvert Si c'est un homme de Primo Levi ?
Assez tard en vrai. J'en avais entendu parler pas mal dans mes études. Mmh. Mais je l'ai découvert. C'est la mairie du 11e arrondissement qui faisait des lectures, qui m'a demandé de lire des extraits. Et c'est pour ça que je l'ai découvert. Mmh. Donc en fait, il y a beaucoup de livres que j'ai découvert aussi grâce à mon boulot.
Bah tant mieux.
C'est pour ça que moi j'ai aussi fait le boulot.
Je peux vous dire que c'est moi aussi plaisant. Quotidiennement. Il y a quelque chose d'assez beau dans ce que vous dites, c'est la difficulté de s'approprier. Je pense que vous le faites aussi parce, enfin vous le dites aussi parce qu'il y est question de justement de partage de lecture à haute voix.
Oui.
C'est une question qui se pose pour la lecture à haute voix, qui se pose peut-être pas oui, si non, vous êtes tout seul.
Si. Ouais. Oui, tout d'accord. Seul, j'en ai rien.
Vous posez pas cette question. Si mais par contre, le transmettre.
Oui.
Pour le transmettre, il faut que vous ayez comme un point d'accroche, quoi.
Oui. Les exercices, quand on fait des lectures, là je suis pas à la hauteur, parce que moi je trouve que les gens qui lisent normalement devraient connaître le texte par cœur déjà, je trouve que c'est le minimum.
Et mais alors on lit encore quand on connaît le texte par cœur ?
Oui, parce que du coup ça nous permet de mettre en scène, mais pas vraiment, il y a une distance, c'est-à-dire qu'on accepte, quand on voit quelqu'un lire, du coup on accepte qu'il n'y ait pas une physicalité, une mise en scène, un truc... Mais quand même, des petites choses, enfin des pistes, je trouve que... Donc en fait, on a la lecture, on a le texte devant les yeux, ça nous permet aussi de nous raccrocher si on ne le connaît pas sur le bout des doigts, mais de dire, bon, bah, puisque j'ai le texte devant les yeux, non, je ne joue pas, je n'interprète pas, vous n'allez pas voir quelqu'un jouer ça, mais quand même, enfin, il faut quand même qu'on ait l'idée de ce que ça pourrait être... Je sais pas si je suis claire.
Vous êtes très claire. Et moi, ça m'arrête aussi l'idée que parmi tous les textes qu'il y avait autour de vous, Antoine Reynard, c'est dans votre tête, ce texte-là soit ressorti, Si c'est un homme de Primo Levi. Pas tant comme une lecture qui aurait été fondatrice dans l'adolescence, mais comme quelque chose, en tout cas, vers lequel vous êtes revenu.
Oui.
Au moment de choisir ce texte. Donc ça dit, quelque chose de son importance.
Et en fait, bizarrement, c'est pas tout le texte, c'est vraiment ce passage.
Ce passage-là.
C'est ça. Moi, ça m'a bouleversé. Mmh. Alors le texte est bouleversant et en même temps, il est très clinique. Enfin, il décrit les camps, l'organisation, comment ça fonctionne. C'est pas un texte. Par exemple, j'avais hésité un moment avec V13,
d'Emmanuel
Carrère, sur les attentats du
13 novembre 2015.
Pardon. Et là, je pleure à chaudes larmes en lisant V13. Enfin, vraiment, c'est très très difficile de ne pas pleurer, de ne pas être bouleversé, de dormir après. Enfin, c'est dur. Là, non. Là, il y a quelque chose où ça raconte les camps. Ok, comment ça fonctionne, comment c'est. Donc, c'est pas au même endroit d'émotion, mais c'est passionnant pour bien comprendre. Mais ce passage-là, moi, je me rappelle que je me suis dit, ah oui, Lorenzo, pour moi, c'est resté vraiment un truc dans ma tête, un peu. Quand j'étais petit, j'avais Kofi Annan, qui était mon modèle. Bon, en vrai, je savais pas vraiment ce qu'il faisait, mais pour moi, c'était le modèle de la paix, de secrétaire des Nations Unies, secrétaire général. Et après, il y a eu Lorenzo, quoi. Lorenzo, c'est vraiment resté un...
Et c'est un bon endroit, les textes, la littérature, le théâtre, éventuellement le cinéma, parce que ça fait aussi partie de votre vie, quand même, pour trouver des modèles ?
Ben oui, je pense, oui. Parce que c'est aussi un endroit où, quand on lit, on est avec soi, donc il y a quelque chose qui se pose, on est plus serein. Ça ne veut pas dire qu'après, on pourra retransmettre ce qu'on a lu avec la même force, mais il y a quelque chose où on a le temps de... Je trouve qu'on est beaucoup plus certain de ce qu'on est en train de comprendre
que
dans les échanges.
Ah oui, que dans la vie. Il y a quelque chose qui est un peu arrêté.
Il y a un truc qui est arrêté, on arrive à se faire des bases, des piliers, donc être plus solide après. Mmh. Je trouve que ça nous solidifie. Et du coup, sur ces modèles, c'est le moment où on peut se dire, ah oui, ça c'est un
modèle. Je m'y appuierai.
Beaucoup plus solidement.
Parmi les textes que vous avez choisis, il y a un poème de Louis Aragon. On va écouter sa voix dans une archive de 1959.
Il m'arrive de passer de la prose au vers d'une façon totalement insensible. C'est visible dans mes derniers poèmes en particulier, mais ça a toujours été au fond ainsi. Et il y a une chose, c'est que, en vers, les mots n'ont probablement pas le même poids. Le passage de la prose au vers, c'est le moment où les mots, qui sont les mêmes, ont un autre poids dans la bouche, sur la langue. Mais en fait, en tout cas pour ce qui est de la mienne de poésie, je n'engage personne par ce que je dis, il n'y a pas une différence fondamentale sur ce qui est dit entre ma prose et mes vers.
Comme il a vite entre les doigts passé le sable de jeunesse, je suis comme un qui n'a fait que danser, surpris que le jour naisse. J'ai gaspillé, je ne sais trop comment, la saison de ma force. La vie est là qui trouve un autre amant et d'avec moi divorce. Rien n'est plus amer. À qui t'en prends-tu ? Plus commun, plus facile que perdre son temps. Et le temps perdu, pourquoi t'en souvient-il ? Le hasard fait que parfois j'y pense et toujours je m'étonne. Ainsi je fus, ainsi j'ai vécu. Moi. Ce printemps monotone, on n'en peut compter rien d'intéressant, malgré ses airs baroques. Et je n'ai jamais été qu'un passant, embourbé dans l'époque. De loin, tout ça paraît aventureux, saoulant, blasphématoire. Les nouveaux venus en parlent entre eux, on en a fait des histoires. Vous, du moins, dit-on, vous aurez bien ri, entre les draps du drame. Sûr, cela valait d'y mettre le prix, fût-ce le corps et l'âme. Vous aurez été libre de rêver libre, comme l'injure. Mais vous regardez nos pieds entravés, avoir raison, c'est dur. Ils rêvent, pourtant, ces fils d'aujourd'hui, où toute chose est claire. Et s'ils ont des regrets, c'est de notre nuit et de notre colère. Ah, le beau plaisir que lire aux bougies des choses éternelles. Il voudrait troquer l'idéologie pour l'irrationnel. Ne voyez-vous pas, malheureux enfant, que tout ce que nous fûmes se dresse devant vous et vous défend le seuil mauvais des brumes ? Ce que nous étions, nous l'avons payé plus qu'on ne l'imagine. Et regardez ceux qui vont foudroyer, sans cœur dans leur poitrine. Mais qu'espérait-il ? Et qui ne vint pas ? Quels astres ? Quelles fêtes ? De qui croyez-vous ces traces de pas ? Des hommes ou des bêtes ? Il s'imaginait d'autres horizons, d'autres airs de musique. Et vous, vous vous plaigniez d'avoir raison sur leur métaphysique. Moi, j'ai tout donné que vous sachiez mieux la route qu'il faut prendre. Voilà que vous faites la moue aux cieux et vous couvrez de cendres. Moi, j'ai tout donné, mes illusions et ma vie et mes hontes, pour vous épargner la dérision de n'être au bout du compte que ce que la fin nous aurons été à chérir notre mal. Le papier jauni des lettres jetées au grenier, dans la malle. Je m'attendais pas à cette voix d'Aragon.
À l'archi, vous voulez dire ? C'est vrai ?
Je l'avais jamais entendu en vrai parler.
Et vous la trouvez comment ?
Très d'époque.
Ouais, bah oui, 59.
Et très nasillarde. Très aiguë, quoi. Très,
ouais. Ouais. Il fait un pont total entre son écriture de prose et son écriture de vers, en considérant néanmoins que dans son écriture poétique, ça pèse différemment, les mots pèsent différemment. C'est un poème que vous avez choisi, Antoine Reinhartz, dans un recueil qui s'appelle « Le roman inachevé » paru chez Gallimard en 1956. Et le poème s'appelle « Comme il a vite entre les doigts passé ». Donc le temps, mais aussi les désillusions politique, mais aussi la jeunesse.
Oui, l'amertume.
L'amertume.
Le regret.
Qu'est-ce qui vous fait aller vers ce poème-là, vous qui n'avez qu'une toute petite, à peine quarantaine?
Ben, parce qu'on peut avoir des regrets très jeunes.
Absolument.
Et c'est une période de ma vie aussi, oui, où j'étais à la fois en reconstruction et très dans le regret. Et du coup, ça m'avait, je trouvais ça très très beau ce qu'il disait. Ça
quand vous avez découvert beaucoup. Le texte,
quand
vous
j'ai découvert le texte, ah, oui. Ouais. Vers 27 ans, hein, 28 ans, ben, je trouvais ça hyper beau. Mais globalement, je trouve qu'Aragon, c'est très très beau, c'est très facile. Alors c'est de la poésie, donc à dire, c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, ce texte, j'en avais jamais rien fait, en vrai. Et ça fait longtemps que je le connaissais, que je l'aime beaucoup. Je sais pas, il y a plein de choses. Et c'est difficile que ça fasse pas vieux con, qui dit, mais enfin, vous pouvez... Enfin, parce qu'il y a aussi un truc de... Le regret, le remords, comment le transmettre et comment dire à l'autre non, ne fais pas cette erreur que moi j'ai faite. Enfin, voilà.
Vous lisez beaucoup de poésie ?
Honnêtement, non, j'en ai lu à une période, mais Baudelaire. J'avais réfléchi à 1h du matin. C'est un poème de Baudelaire où il rentre chez lui à 1h du matin et il est saoulé de tout ce qu'il a fait. Il se dit mais j'ai été tellement faux. Toute ma journée, j'ai serré des mains à des gens qu'en fait j'aime pas tant que ça. J'ai fait ça, mais c'est du blabla, etc. Et il finit en disant « Mon Dieu, mais donne-moi juste une demi-heure d'écriture avec un peu d'inspiration pour au moins que ma journée ait un sens. » Parce que j'ai fait que des choses qui me salissent, selon lui. Voilà, c'est un autre poème que j'adore. Enfin, Baudelaire, je trouve ça vraiment sublime en termes de poésie.
Vous lisez la nuit ? Parce que vous avez dit que vous lisiez pour vous endormir, ou en tout cas près de la nuit, mais la nuit, vous lisez ?
Je vis beaucoup la nuit, globalement.
Donc la lecture fait partie de la vie nocturne.
La lecture fait partie de la vie nocturne, et là, depuis peu, je lis au réveil aussi, pour avoir des réveils plus doux, pour me remettre
c'est
en
bien
route,
si, parce que sinon, en fait, c'est une bonne idée.
Pour une petite demi-heure, pour ne pas... parce que sinon, en fait, tout de suite, je suis sur ma to-do list à me dire « Ok, je dois faire ça, bosser tel truc, et en fait,
Voilà.
On ne peut pas avoir une fulgurance au réveil. Il faut nous laisser un petit laps de temps.
Oui, ça fait finalement plusieurs fois que vous racontez la lecture, Antoine Reinhartz, comme un temps, alors sans cette formule éculée du temps de pause, mais en tout cas, il y avait presque un truc aussi physique, quoi. Le corps arrêté, quelque chose qui est un peu plus lourd, mais aussi qui peut presque plus se digérer que le reste qui semble aller un peu vite.
Oui, et qui nous ramène à nous, qui nous permet d'être plus solide. Et après, il y a aussi quelque chose où je pense qu'il n'y a jamais eu de culpabilité, puisque la lecture a toujours été valorisée chez moi. Donc,
Oui, vous ne vous dites pas qu'est-ce que je fais dans mon lit avec un bouquin,
ouais,
etc. Là.
C'est toujours valorisé.
C'est toujours bien. C'est super. Vous avez parlé tout à l'heure du moment de commission d'attribution de l'avance sur recette. Voilà. Ouais. Ce qui nous emmène vers votre troisième choix, c'est un extrait d'un scénario, le scénario de Petit Frère de Léonore Serrail. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot avant de le lire ?
Ben, un scénario, globalement, c'est 3 heures de lecture, souvent. Enfin, ça met 3 heures à lire, donc il y a quand même quelque chose où on a le temps de le vivre vraiment et en même temps, c'est très très visuel, donc on voit le film. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu tous les films que j'ai lus. On les a vus en vrai. Enfin, bon, et parfois ils sont pas comme ils étaient prévus. Et ça, c'est vraiment un scénario. Moi, j'ai pleuré. Enfin, vraiment, c'est une saga. Le film n'a pas été tant vu que ça par rapport à sa puissance. C'est un film qui était à Cannes. C'est une saga d'une femme gabonaise qui arrive pleine de... Elle a deux fils au pays et deux fils en France. Elle est femme de ménage. En même temps, elle est très, très libre. Elle profite de... Elle a une espèce d'énorme vitalité. On voit là aussi l'impact du temps sur elle et quelque chose qui s'éteint quand même au fur et à mesure de sa vie. Tandis que ses fils, il y en a un, on voit les promesses que sont ses enfants et ce qu'elles deviennent, qui sont souvent pas du tout ce à quoi on s'attendait sur l'un comme sur l'autre. Donc, c'est,
donc on les suit sur le temps, tous ces
personnages. On les suit sur le temps. Ouais. Il y a vraiment trois grands moments. Mm-hmm. C'est une saga sur 30 ans, je pense. Et c'est trop beau parce qu'il y a tous ces moments d'espoir et puis il y a la réponse. Qu'est-ce que sera la vie finalement? C'est bouleversant.
On vous écoute dans l'extrait du scénario que vous avez choisi.
Alors c'est au début, séquence 9. Intérieur hôtel, aube. Un plafond goutte, comme si elle n'avait pas dormi, prolongeant le mouvement de la séquence précédente. Rose se penche en avant, continue à frotter une cuvette de toilette, tenue de femme de ménage, impeccable, ultra concentrée comme une enfant. Cut tout. Autre chambre. Refaire les draps, dépoussiérer, poubelle, mégots, serviette. Elle est à la fenêtre, d'où on aperçoit un micro-bout de tour Eiffel. Ça la fait sourire comme une gamine. Puis elle s'attarde sur le visage d'une passante blonde qui fume. Soudain, une silhouette l'intrigue. À 10 mètres, un homme noir sur un échafaudage avec un casque et une tenue de chantier. Il la voit, il se regarde, ça dure quelques secondes. Cut tout. Il neige. Paris semble moelleuse comme un oreiller. Rose dort, à point fermé, dans le fauteuil d'une chambre, avec un ronflement adorable. Elle ouvre un œil, regarde l'heure, enfile vite ses mules en plastique. Elle croise une autre femme de ménage dans le couloir, nord-africaine. Elle porte la même tenue, un regard concentré, un signe timide de la tête, avant de retrouver chaise en plastique et carrelage humide, et les dents de Rose se plantent dans le sandwich froid. Séquence 10, intérieur chambre d'hôtel, jour. Elle retire la veste d'un homme qu'on reconnaît, beau visage grave, casque de chantier sur le fauteuil, Malik. Même précision et rythme qu'au travail, chemise, ceinture, pantalon, hop. Elle reste tout habillée, grimpe sur lui, tout va vite, une fin à calmer. Cut tout. Après. Lui encore nu, elle habillée, Rose fume, tend sa fin de cigarette, il ne fume pas. Quelque chose s'est dénoué, elle resplendit. Rose, on dirait qu'il part un peu sur le côté, non? Elle parle de son sexe. Il n'en revient pas, s'étrangle un peu, mais acquiesce. Mais il fonctionne bien, hein, pas de problème. Malik, ah tant mieux. Il est intimidé, mais juste ce qu'il faut. Elle reprend le travail, aère la chambre. Il est déjà en bas, frigorifié sous son bonnet en laine, grimpant dans une camionnette, filant dans Paris blanche et gracieuse. Séquence 11, intérieur salle de bain, Drancy, nuit. Les mains de Rose font mousser le gel douche sur le corps de ses fils, qui partagent un bain. Ses mouvements sont pleins, le silence est serein. Parenthèse à 3, pas besoin de parler. Les corps se retrouvent, se détendent. Rose les inspecte.
Maman, pourquoi la valise, on la met pas dehors?
Mais parce que si on la met dehors, c'est dans le passage du couloir de Eugénie et Félicien. Alors on la met là?
Tu peux la mettre sur le balcon.
Non, on la laisse ici. Allonge-toi, donne-moi ça.
Et pourquoi Ernest, lui, il dort pas?
Allonge-toi.
Il avait dormi à côté de lui.
Mets-toi sous les draps.
Elle m'en fait du pont, oui.
Tu vas dormir.
Mais pourquoi?
Jean, il y a quoi?
Rien.
Merci.
On entend la voix d'Annabelle Langrone, la comédienne qui interprète Rose dans le film Un petit frère de Léonard Serrail, dont vous avez choisi de nous lire un extrait. Voilà, c'est inédit, je crois, dans les bibliothèques du Book Club d'avoir lecture d'un scénario. Et vous l'avez fait avec une telle... on sent le métier, quoi. Avec une telle dextérité.
C'est plus facile, hein, en vrai.
Ouais, ouais. Ah, c'est plus facile, c'est-à-dire?
Je trouve ça beaucoup plus facile à lire après.
Ah.
Il faut savoir le jouer. C'est pas pour moi, mais...
Mais comme objet, c'est facile à lire? Ah, moi, je me serais dit l'inverse, non?
Enfin, au départ, non. Mais c'est des habitudes. J'en ai eu tellement, du coup, je...
Il y a un côté jouissif de fabriquer l'image, quoi.
Oui, et puis... je sais pas, là, moi, je vois, je me dis, ok, ça va très vite, quoi. Enfin, il y a quand même... quelque chose, et puis qui doit être très très efficace, parce que sinon, comme c'est des scénarios, c'est un objet de travail, c'est une base, mais en fait c'est aussi ce qui permet de demander tous les financements. Ça doit être...
Il faut qu'on soit vite convaincu.
Il faut que ce soit, faut que ça marche. Enfin, il faut qu'on soit clair, très très sensoriel, et en même temps concis, enfin...
Qu'est-ce qui vous avait convaincu? Je ne sais pas si c'était à ce moment-là, par exemple, si vous étiez dans cette commission.
Si,
mais
si, ouais, je l'avais lu en commission.
Qu'est-ce qui pouvait convaincre immédiatement dans ce scénario de Petit Frère de Léonard Serrail?
Nous, ce qu'on doit regarder, c'est la singularité, l'originalité. Enfin, on est très, très libre dans cette commission. Et ce qui est beau, moi, je trouve, c'est qu'il y a quelque chose dont, oui, c'est les femmes de ménage, mais il y a beaucoup de romanesque. Et c'est sur des sujets sociaux, c'est dur de pas être surplombant et de pas juste enfermer les héros qu'on montre dans leur galère sociale.
Oui, parce que ça fait plusieurs fois que vous dites à les femmes de ménage, mais c'est en gros au vu des représentations, au vu
oui,
des histoires
ça.
Qui sont racontées.
C'est-à-dire que souvent, parce qu'effectivement, le poids social est très très lourd, mais en fait, quels sont ses rêves? Enfin, on a besoin
et
de.
Et ses désirs sexuels, par exemple.
Et ses désirs sexuels, enfin, c'est trop bien. Mm. Enfin, du coup, il y a un endroit où, oui, du coup, on connaît cette femme. Enfin,
et ça n'enlève rien à la
dureté de ce métier. Mais c'est une héroïne, quoi. On est avec elle.
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de la manière dont vous faites vos choix là, de scénario pour les jouer, Antoine Reinhardt, mais pendant un temps, vous avez dit qu'il y avait dans vos choix une dimension, est-ce qu'on va dire politique, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, ou éthique, ou est-ce que ça reste un critère de choix, par exemple, pour mener votre carrière?
Oui, mais c'est moi, l'endroit éthique ou politique ou déontologique que je mets, enfin, moi j'ai envie qu'on soit dans des... C'est surtout, c'est pas une idéologie, c'est-à-dire que oui. Moi, les scénarios qui disent les choses, qui sont hyper didactiques, ça m'ennuie. Il y a plein de scénarios de bonnes intentions, mais j'ai envie de dire, mais c'est tellement fake, on ne parle pas comme ça. Ou alors, si on parle comme ça, on est fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, non, on ne fait pas des leçons avec les gens qui acquiescent. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit au plus proche du réel, et quel que soit le réel, si on est au plus proche du réel, dans la représentation la plus juste, la plus fine, eh ben, on montre la vie et alors on est. Je trouve que politiquement on est au bon endroit, quel qu'il soit.
C'est cet endroit politique.
Parce que ouais, en tout cas c'est ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a 8 ans, j'étais peut-être pas là. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un endroit politique de la représentation individuelle, la plus singulière possible et la moins sociologique quelque part. C'est-à-dire que quand je vois ce qu'on me dit sociologiquement trop, à trop gros traits dans un scénario, bon, en fait, sinon je lis un article du Monde, quoi. Enfin, il y a un truc où je m'en fous. Enfin, ce qu'il faut, c'est que je vois une singularité, une histoire, et que je comprenne tous les tenants aboutissants de pourquoi cette personne agit, avance, pourquoi il fait ce choix-là à ce moment-là. Voilà.
Il y a aussi une singularité dans Petit Frère qui est la présence des enfants. J'ai une théorie non écrite, c'est l'apparition des personnages enfants dans les films français des 6-7 dernières années. Je pense que ça raconte quelque chose de très intéressant du sujet politique de l'enfance. Voilà, mais j'ai pas encore écrit cet article pour Le Monde.
J'ai hâte de le lire.
Oui, moi aussi j'ai hâte de le lire, Antoine Reinhardt. Néanmoins, voilà, vous avez aussi joué dans... Enfin, je pense évidemment à Anatomie d'une chute où la présence de l'enfant est centrale. Qu'est-ce que vous, ça vous raconte? Qu'est-ce que ça crée au plateau? Si vous partagez des scènes, est-ce que ça vous plaît en tant que comédien, en tant que spectateur?
J'ai aussi fait un film qui s'appelle Petite Nature, où le personnage principal, c'est un enfant de 11 ans qui mélange toutes ses émotions et tous ses sentiments et qui a du désir pour son instituteur de CM2 et qui, à un moment, essaye de l'embrasser. Hyper dur à jouer. Parce que, alors bien sûr, il pouvait faire tout ce qu'il voulait et c'était très très bien encadré et il était à la fois très très responsabilisé et en même temps...
Le jeune comédien,
qui avait 11 ans, il en avait 12 peut-être qu'il avait un an de plus, quoi. Mais il n'empêche que, et même si je spoil un peu, mais je le repousse, il me fait quand même un smack qui dure un quart de seconde et qu'il faut tourner s'il le veut, s'il pouvait aussi m'embrasser dans le cou s'il ne le voulait pas, donc... Et ouais, c'est des questions sans fin, c'est-à-dire que la question de l'enfant, moi j'ai tourné avec des enfants que je trouve assez forts, Milo dans Anatomie, Alyosha dans ce film-là, j'ai tourné avec des enfants beaucoup plus jeunes sur Chanson douce, on peut ruiner une éducation très facilement, on a vraiment besoin que ces enfants travaillent, parce qu'en fait sinon on ne représente pas le monde, si on n'a pas d'enfants à l'écran, ça veut dire que on se prive d'une façon de penser qui serait très dommageable, et en même temps... on fait travailler des gens de moins de 16 ans, c'est le seul endroit où on le fait. Et ça peut détruire beaucoup de choses, ça peut créer... Il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah, mais toi, t'es vraiment un acteur, ça se voit, bravo et tout », alors que t'as envie de dire « Bon, il a 12 ans, en fait, laisse-le vivre sa life ». Enfin, ce qu'il fait, impressionnant, il arrive à se mettre dans le cadre, mais c'est tellement dur comme métier, c'est tellement... Déjà, quand on a mon âge, c'est trash. Je veux dire, quand on a 20, 25, 30, 40, 50, c'est dur. Tellement qu'il tourne mal déjà à 40 ans.
Oui, laissons les enfants avoir de la place. Moi, je parlais plutôt des sujets fictionnels que ça produit.
Pardon.
Non, mais c'était très intéressant. Ça produit, mais vous le disiez, en fait, finalement, c'est une façon de représenter le monde et que ne pas le faire serait se priver de quelque chose d'important.
C'est hyper important. Et oui, enfin, même la question dont on... L'avancée globale qu'on a sur... Enfin, l'avancée, elle existait déjà, il faut arrêter de croire qu'avant, c'était... il n'y avait rien, mais la question du désir de l'enfant, etc., qu'on explore beaucoup aujourd'hui, c'est important. Enfin, je veux dire, de comprendre comment il s'exprime, pourquoi, et c'est... Voilà.
Votre quatrième choix s'est tourné vers un texte d'Amin Maalouf. C'est un texte très contemporain, paru en 2023 aux éditions Grasset. Ça s'appelle « Le labyrinthe des égarés ». Il était reçu pour ça à la matinale de France Inter au micro de Marion Lourd et Ali Badou. On l'écoute parler du labyrinthe des égarés juste avant que vous nous en fassiez lecture.
C'est une tragédie que l'on prévoyait. Vous auriez demandé à n'importe qui il y a quelques mois, on savait que quelque chose allait arriver là et que ce serait tragique. Mais il n'y a aucun dispositif dans le monde d'aujourd'hui qui permette de prévenir une tragédie, même quand on sait qu'elle va arriver. Et c'est ça qui est grave. Dans mon livre, je parle un peu de ça, de cette idée que nous sommes dans un monde égaré. Nous sommes dans un monde qui entre dans une nouvelle guerre froide, alors que nous venons quand même à peine de sortir de la précédente et que nous aurions pu ne pas retomber dans une nouvelle guerre froide. Et ma démarche a été la suivante. Je me suis dit, il faut comprendre comment on en est arrivé là. On savait pour la première guerre froide, parce que nous avons l'habitude de ce conflit entre communisme et capitalisme, nous le connaissons, nous l'avons pratiqué, mais ce qui arrive aujourd'hui, nous ne savons pas tellement. Et je me suis plongé pour cela dans l'histoire de quatre pays.
Une question s'impose, est-ce vraiment le déclin de l'Occident que nous avons aujourd'hui sous les yeux ? Cette interrogation n'est évidemment pas neuve, elle revient de façon récurrente depuis la Première Guerre mondiale, le plus souvent d'ailleurs sous la plume des Européens eux-mêmes, ce qui n'a rien de surprenant puisque les puissances du vieux continent ont effectivement connu un déclassement par rapport au rang qu'elles tenaient dans le monde au temps des grands empires coloniaux. Cependant, une bonne partie de leur prépondérance perdue a été récupérée par cette autre puissance occidentale que sont les États-Unis d'Amérique. La grande nation d'outre-Atlantique s'est hissée à la première place il y a plus de 100 ans. C'est elle qui s'est chargée de barrer la route à tous les ennemis de son camp. Et à l'heure où j'écris ces lignes, elle conserve sa primauté par sa puissance militaire, par ses capacités scientifiques et industrielles, comme par son influence politique, culturelle et médiatique sur l'ensemble de la planète. Serait-elle aujourd'hui sur le point de tomber ? Elle aussi de son piédestal. Serions-nous en train d'assister au déclassement de l'Occident tout entier et à l'émergence d'autres civilisations, d'autres puissances dominantes ? À ces questions qui reviendront forcément hanter nos congénères tout au long de ce siècle, j'apporterai pour ma part une réponse nuancée. Oui, le déclin est réel et il prend parfois les allures d'une véritable faillite politique et morale. Mais tous ceux qui combattent l'Occident et contestent sa suprématie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, connaissent une faillite encore plus grave que la sienne. Ma conviction en la matière, c'est que ni les Occidentaux, ni leurs nombreux adversaires ne sont aujourd'hui capables de conduire l'humanité hors du labyrinthe où elle se fourvoyait. Certains de mes contemporains seraient, je suppose, rassurés par un tel diagnostic. Conscients des difficultés que connaissent leur propre nation, ils ne seraient pas mécontents de se dire que les autres se portent tout aussi mal. Mais si l'on se situe dans une perspective plus ample, on ne peut que s'angoisser de cet égarement généralisé, de cet épuisement du monde, de cette incapacité de nos différentes civilisations à résoudre les problèmes si épineux auxquels notre planète doit faire face. J'aime à croire néanmoins que cette appréhension que j'éprouve et que beaucoup d'autres ressentent sous tous les cieux finira par susciter une prise de conscience salutaire. Si aucune nation, aucune communauté humaine, aucune ère de civilisation ne possède toutes les vertus ni ne détient toutes les réponses, si aucune n'a la capacité ni le droit d'exercer sa domination sur les autres, et qu'aucune non plus ne veut être soumise, rabaissée ni marginalisée, ne devrions-nous pas repenser en profondeur la manière dont notre monde est gouverné, afin de préparer pour les générations futures un avenir plus serein, qui ne soit pas fait de guerre froide ou chaude, ni de lutte interminable pour la suprématie ? ça peut paraître un peu édifiant, lui, comme ça, parce que c'est l'ouverture.
C'est l'ouverture du livre de La guerre des égarés d'Amin Maalouf.
Alors, lui aussi a une voix incroyable. J'adore. Je suis complètement fan d'Amin Maalouf. Enfin, j'ai découvert de ses. Je connaissais Le Rocher de Tanyos, tous ses romans que j'aime parce qu'il y a quelque chose de. Comme lui, je crois qu'il est né en Égypte puis au Liban. C'est des romans qui se passent au Levant ou dans ces pays et parfois même, enfin, à l'époque de l'Empire ottoman ou après, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a moins. Enfin, que j'avais moins lu et qui est assez...
Forme d'exotisme, quoi.
Ouais, peut-être.
Non, je sais pas.
Ouais, non, mais c'est vrai. Oui, non, mais oui, c'est vrai que c'est une forme d'exotisme. Mal, oui, complètement. Ouais, complètement ça.
Ça peut faire partie de la lecture.
Bon, bah, c'est mon côté. Mon regard exotisant. Je sais pas si on le dit. Mais ses essais, je suis fan. Enfin, il y a un truc où il est très nuancé. Là, ça peut paraître édifiant, mais en vrai, c'est très, très nuancé. Là, son livre-là, c'est sur les trois grandes puissances qui ont remis en cause l'Occident, qui ont été la première, le Japon, qui a gagné une grande, grande bataille contre la Russie à une époque où personne ne pensait qu'une autre nation, et que le Japon, qui 50 ans avant était encore un pays très, 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 très paysan, très, beaucoup moins puissant, puisse battre la Russie. Ensuite, l'URSS. Et c'est très beau parce qu'il y a aussi un truc sur les pensées actuelles où, en fait, il rappelle qu'à l'époque, l'anti-Occident, c'était l'URSS, donc des gens blancs. Donc, en fait, ce qui n'était pas occidental n'était pas non-blanc. Et donc, toutes les questions qu'on a aujourd'hui beaucoup plus fortes de,
sur
la
global,
couleur de la peau et sur, n'étaient pas posées du tout de la même manière puisque ça se séparait en deux camps qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et ensuite, la Chine, aujourd'hui. Je sais pas, quand je lis, je me sens élevé, je me dis waouh, enfin, c'est un historien, il a été journaliste dans tout le Moyen-Orient pendant des années, donc pareil, ce qu'il dit sur l'Égypte, Israël, le Liban, c'est documenté, c'est pas très idéologique en vrai. J'espère que ce début ne peut pas faire penser que si, mais non, c'est pas très idéologique, c'est juste on se sent OK, beaucoup plus puissant, beaucoup plus armé pour comprendre ce qui se passe et pas paniquer pour autant, juste on se dit ok, on comprend, on a envie que Donald lise ce livre.
Et que le sursaut auquel il appelle dans cette introduction de livre ait lieu.
Oui, ça paraît tellement rationnel que d'un coup les choses paraissent possibles.
Votre dernier choix, mais ça va vers le futur peut-être, c'est un livre pour enfants, il s'appelle Une nuit, un chat, d'Ivan Pommeau, et il a paru aux éditions de l'École des loisirs en 1994. Vous faites un grand sourire.
Bah, passion. C'est mon livre d'enfance. J'ai hésité avec Pélagie la sorcière. Uh-huh. Pélagie, elle a un château tout noir. Son chat est noir et du coup, elle tombe dessus, donc elle change de couleur. Et finalement, Une nuit, un chat. Parce que, en ce moment, il y a les Archibald pour enfants qui sont vraiment toute une série de livres très, très beaux, très, très contemporains, type Archibald. Une mésange meurt et donc il n'entendra plus jamais le sifflement de la mésange. Et c'est pas grave parce qu'il aura toujours ce sifflement avec lui. Enfin, c'est hyper, parfois hyper deep et tout, mais hyper beau. Mais c'est très connu. Alors qu'Une nuit, un chat, je pense. Bah, Ivan Pommeau, c'est hyper connu, mais moi, c'est plus mon enfance. C'est moi.
Allez, on lit Une nuit, un chat.
Ok. Alors par contre, je vous préviens, moi, j'ai aucun respect pour l'autorité de l'auteur.
D'accord.
Et quand je lis les livres pour enfants, je.
Vous transformez.
Ouais, je lis pas ce qui est écrit.
Ah, d'accord.
Voilà. Désolé pour l'auteur.
Voilà. Il est prévenu comme ça, c'est pas mal.
Ouais.
Vous savez où vous devez vous arrêter parce qu'on va pas faire tout l'album.
Oui, bien sûr.
Oui, il y a un pacte entre nous. On est d'accord. Vous avez déjà.
Quand même.
Très bien.
Donc en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Groucho. C'est un petit chat gris à rayures qui a, comme tous les chats, passé toutes ses nuits au lit, à dormir. Mais cette nuit, il y a une force mystérieuse qui le pousse à sortir de sa chambre, seul. En passant par la fenêtre, donc évidemment les chats font ça, mais les enfants ne font surtout pas ça parce que c'est très dangereux.
Surtout
mais
pas.
Les chats, ils retombent sur leurs pattes, donc ils peuvent le faire. Ça, ce n'est pas dans le livre, mais ça, je le rajoute parce que je suis un peu anxieux. Ses parents s'y attendent puisque chez les chats, en fait, c'est une tradition. Tous les parents attendent le moment où les chats sortent pour la première fois la nuit, seuls, et il est interdit chez les chats d'empêcher ça. Il y a une règle d'or, on n'empêche pas le chaton qui sort seul par la fenêtre la nuit. Alors, empêcher le chaton serait un déshonneur, mais peut-être pourrais-tu le suivre, dit la maman au papa. Surtout qu'il y a un rat d'égout qui traîne en ce moment et qui a déjà dévoré plusieurs chatons. Bon. Ok, personne ne le saura. Le papa enfile son écharpe, il court, il prend son parapluie et la maman regarde par la fenêtre paniquée. C'est un livre des années 94. Et le papa poursuit le petit chaton. La nuit, Groucho découvre la nuit. Elle est caressante, douce, tout peut arriver. Il marche sur les toits, il saute sur les ardoises. Il vit des moments exaltants et il va tomber. Heureusement, son père est là. Il sort le parapluie, il rebondit sur le parapluie sans s'en rendre compte. Il aurait pu se faire très mal.
Sans se rendre compte que c'est son père qui le sauve.
Bon. Et surtout, la nuit, Groucho se rend compte que tous les chats ne dorment pas, qu'énormément de choses se passent la nuit. Les gens se baladent, il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui dorment dehors, qui se câlinent, qui se promènent, et il y a des gens qui font la fête et qui jouent de la musique. Voilà, toute cette nuit que Groucho ne connaissait pas, il la découvre. Il constate aussi que tous les chats ne sont pas gris. Il y a des chats noirs qu'il aperçoit à peine, des chats qui se baladent avec une chatte toute blanche, très habillée. Et bientôt, de grandes ombres entourent Groucho. Groucho n'a pas peur des ombres, mais quand elles sont bizarres et immenses, il a très très peur. Mais parfois, la nuit s'amuse à donner une ombre effrayante à un petit être inoffensif. Et en fait, Groucho rencontre Kitty, qui est une toute petite chatte blanche qui, elle aussi, sort pour la première fois la nuit. Mais parfois, la nuit ne s'amuse plus. Et c'est là que l'immense ombre du rat d'égout apparaît sur le mur.
C'est là qu'on s'arrête ?
Et c'est là qu'on s'arrête.
Oh, waouh ! Merci beaucoup, Antoine Reynard, d'avoir
Avec
ouvert
plaisir.
Pour nous cette bibliothèque. Un immense merci.
Qu'on me tranche le cou, si je n'ai pas su trancher entre tous les remous de leurs âmes certifiées. Suis-je fier? Peut-être c'est le geste, joli geste, joli moi. Des avis, mes amis, eh bien j'en ai pas, j'en ai plus. Oh, laissez-moi.
Vous retrouverez tous les textes évoqués ainsi que les traductions que je n'ai pas citées sur le site Book Club de France Culture, franceculture.fr. Vous retrouverez tous les textes évoqués par Antoine Reynard et les traductions que je n'ai éventuellement pas citées sur la page du Book Club franceculture.fr. Sur cette page, vous trouverez aussi tous nos portraits de bibliothèque. Au son, aujourd'hui, c'était Dali Yaha. À la réalisation, Margot Page. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.